Bonjour et bienvenue dans Du vent sous la robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Karine Deluca. Avec Karine, nous avons parlé de la place de l'humain dans l'innovation, de comment elle gère la crise actuelle au sein de son cabinet, de droit collaboratif, d'écoute active des besoins du client et de comment elle et son associé réinventent la relation client en proposant toute une série d'outils innovants à destination de leurs clients et notamment du podcast et des vidéos qu'elle a créées, des retombées que ça a eues sur leur activité, sur la satisfaction client, mais aussi de la nouvelle plateforme de divorce en ligne qu'elle vient de lancer avec son associé, d'urgence du droit, de box au petit plaisir, de la gestion du temps au sein des cabinets d'avocats et de comment utiliser les outils technologiques pour gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée pour en consacrer davantage à la relation client et de l'importance d'avoir un management de qualité dans les cabinets d'avocats. Bonjour Karine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai bonheur de vous recevoir dans ce podcast, surtout en cette période un peu morose de confinement. Mais comme me l'a récemment dit quelqu'un, dans Morose, il y a rose.
Merci de me recevoir. Effectivement, c'est un peu particulier, on va faire cette interview à distance. Mais finalement, on va apprendre aussi plein de choses par rapport à l'innovation et au progrès. Je crois que ça peut nous faire aussi que progresser ces situations.
Tout à fait, ça pousse à innover. Donc Karine, vous êtes avocate spécialisée en droit de la famille et des personnes, et en particulier en divorce, et vous avez fondé avec Maud Lelièvre le cabinet Granvel Société d'Avocats. Passionnée par l'humain et la psychologie, la relation client est ce qui vous fait vibrer dans notre métier. Pleine d'ambition et de valeur, vous êtes fixée pour objectif de révolutionner le divorce et d'arrêter le saccage que celui-ci provoque dans les familles, en proposant notamment de nombreux outils innovants à vos clients. Un défi à la hauteur de votre goût pour l'aventure. En effet, quand on a réussi à préparer un marathon en 15 jours ou bien qu'on a acquis des vignes pour s'initier à la viticulture, révolutionner le droit du divorce n'apparaît plus si difficile. Bon, je vous avoue être un petit peu déçue à cause du confinement, je n'aurai pas la chance de goûter votre vin tout de suite, mais ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, à vous seule, vous constituez la preuve que l'innovation peut bel et bien être humaine. Karine ? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a conduit à vous intéresser au droit et à l'innovation?
Oui, vraiment merci déjà de me recevoir sur ce podcast et merci de vous intéresser à l'innovation et au droit. Vraiment, ça me semble important et à chaque fois j'ai envie qu'on motive les jeunes qui se lancent dans cette profession à vraiment axer leur recherche sur l'innovation parce qu'il y a vraiment des belles choses à faire. Alors moi, mon parcours, c'est un parcours d'une petite jurassienne parce que on est un peu perdu au fin fond du Jura et c'est aussi la preuve que même au fin fond du Jura, on peut innover. Et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Donc moi, au début, j'étais pas forcément partie pour faire du droit. J'étais partie un peu dans le sport et puis finalement, ça s'est pas fait. Je me suis retrouvée à la fac de droit avec un peu le projet d'être notaire, avocat. Je savais pas forcément. Et puis, je me suis présentée au concours d'avocat et puis ça a fonctionné. Je le dis toujours parce que au départ, moi, j'étais sûre de vouloir faire du droit des affaires. Je suis même partie pendant quelques temps dans un cabinet spécialisé en droit des affaires. J'étais chez Fidal, donc vraiment le cabinet typiquement droit des affaires. Et puis, je me suis pas sentie bien, non pas par la structure, par la matière en elle-même qui ne me plaisait pas. Et j'ai finalement changé au bout de 9 mois pour partir dans un petit cabinet généraliste.
Qu'est-ce qui vous plaisait pas dans le droit des affaires?
En fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de contact humain. Et en fait, dans ce cabinet, j'étais perdue dans mon bureau. Je crois que je m'ennuyais et puis je manquais de contact humain, d'être proche des gens. Et c'était vraiment un choc pour moi parce que j'étais convaincue de vouloir faire du droit des affaires. Depuis le début, je disais à tout le monde que c'était la bonne solution, que c'était le métier d'avenir. Et c'était un moment difficile en me disant « mais mince, le métier ne me plaît pas, j'ai fait toutes ces études pour rien ». Et en fait, c'était simplement la façon de l'exercer qui ne me convenait pas. Et je crois aussi que j'avais besoin d'autonomie.
Comment vous avez rebondi justement par rapport à cette déception ?
En fait, je crois que j'ai suivi ce que je ressentais. Et maintenant, c'est mon mot d'ordre, en fait. C'est-à-dire que je me sentais pas bien. Et plutôt que de rester dans un fonctionnement où je me sentais pas bien, je me suis dit, pourquoi je me sens pas bien? Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas le type de cabinet qu'il te faut. Il te faut peut-être un petit cabinet. Et donc, j'ai démissionné du cabinet où j'étais. Et je suis allée dans un tout petit cabinet. Alors, je suis passée d'une très grosse structure à un tout petit cabinet. Mais le mot d'ordre, c'était finalement, si ça va pas, s'il y a quelque chose qui convient pas, eh ben, on a le droit de changer. Et c'est là où ça a ouvert toute la suite qui était finalement positive pour moi, en fait. Parce que dans ce petit cabinet, j'étais en contact avec des gens. J'avais de l'autonomie et j'ai pu révéler ce que j'avais vraiment envie de faire. Même si le changement, il est peut-être un petit peu difficile, parce que sur le coup, je vous cache pas que je me souviens la première fois que je suis arrivée dans le nouveau cabinet, je me suis mise à pleurer en me disant « Mais mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? T'as quitté une grande structure. Qu'est-ce que tu vas devenir ?» Puis finalement, le changement, il s'est avéré positif. Mais parfois, c'est pas tout de suite. Il faut un peu du temps.
Et vous avez créé votre propre cabinet par la suite. Est-ce que vous aviez déjà le goût de l'entrepreneuriat plus jeune?
Mais en fait, je crois que justement, c'est ça que ça a révélé chez Fidal. C'est que c'était une structure très pyramidale, finalement, avec plein de responsables au-dessus de soi. Et en fait, j'avais besoin de prendre mes propres décisions, prendre mes propres risques, pouvoir essayer de faire toute seule et autres. Et dans un petit cabinet, j'ai très rapidement pu faire ce que j'avais envie de faire. J'ai demandé à installer un nouveau cabinet dans une autre ville. Enfin, tout de suite, l'entrepreneuriat, il est apparu beaucoup plus possible dans une petite structure que dans une organisation très pyramidale, en fait.
Oui, c'est ça. C'est plus souple comme organisation, en fait.
Complètement.
Et quelle est votre plus grande fierté?
Alors, ma plus grande fierté, je le dis, moi, je suis une fille d'ouvrier, en fait. Mon papa, il est italien, il est venu en France, il avait 13 ans. Et pour mes parents, je crois qu'être avocate, c'était une fierté vraiment immense pour eux. Et je crois que je le garde, ça. D'ailleurs, ça m'émeut toujours quand j'en parle. Je remercie d'ailleurs toujours le système français avec cet ascenseur social, parce que on a quand même un système qui nous permet de pouvoir faire des études. Et puis après, là, maintenant, je suis fière, notamment, toutes les innovations qu'on a mis en place ces dernières années, aujourd'hui, là, dans cette situation de confinement, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a bien fait de le faire? Parce que ça a permis à tout le monde de travailler depuis chez elle. Ça a permis, dès le début, de fermer le cabinet et de les mettre en sécurité, et quand même de continuer de travailler.
Justement, je voulais vous demander comment vous gérez le contexte actuel. Est-ce qu'il y a des outils en particulier qui vous facilitent la tâche? Enfin, c'est des éléments que vous aviez mis donc visiblement en place avant le confinement. Est-ce que depuis le confinement, vous avez pensé à mettre en place d'autres outils ou d'autres méthodologies pour faciliter le travail à distance?
Alors, ce qu'on avait mis en place avant et là aujourd'hui, mais je me dis mais merci, heureusement qu'on l'a mis en place. On a tout numérisé, nous, on est en sans-papier, comme on appelle ça, depuis 2 ans. Depuis 5 ans, on a un logiciel à distance, c'est-à-dire que je peux me connecter partout où je veux, j'ai accès à tous mes dossiers. Donc, on peut tous travailler complètement sans nos dossiers papier depuis partout. Alors après, c'était un choix qui était un choix compliqué parce qu'il a fallu créer un poste pour ça. Donc, c'était un coût financier au départ de dire, voilà, on va prendre quelqu'un qui va numériser, qui va faire ce travail-là. Mais maintenant, on a des outils qui vont vite, qui permettent de le faire assez facilement. Et le temps et le coût que ça représente par rapport aux gains qu'on a derrière, c'est inestimable. Et puis, comme je vous disais, on est dans le Jura, donc on a plusieurs villes, on a 3 cabinets. Donc, pour pouvoir être efficace sur les 3 cabinets, c'était aussi indispensable d'être en sans-papier. Et puis, ça a fait des économies de papier, ça permet aussi au niveau des locaux d'avoir quelque chose qui est plus facile en gestion. Enfin, moi, là, on y voit, nous, que des avantages. Ça a été difficile au départ, c'est-à-dire qu'il y a le cap à passer de se dire, allez, on y va, puis aussi une forme de peur de dire, mais j'ai plus de dossier papier. Et en fait, c'est comme tout, on s'habitue, et puis le changement, on s'y fait. C'est toujours le démarrage, c'est-à-dire, allez, on se lance, on le fait. Et il faut être assez radical dans des choix. C'est-à-dire que le faire à moitié, ça allait pas marcher. Parce qu'au début, on disait, on garde quand même un petit dossier pour ceci. Non, c'est-à-dire que il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Sinon, si on le fait à moitié, ça marche pas. Après, là, en ce moment, je vois, il y a un outil qu'on avait mis en place il y a pas mal de temps, et qu'est-ce que je suis contente qu'il soit mis en place, c'est le système des paiements en ligne. Parce que les gens peuvent pas se déplacer à la poste, nous, c'est compliqué pour le courrier, on peut pas retourner non plus à la banque, et on a vraiment voulu que personne sorte de chez soi. Et dans des périodes de crise comme ça, c'est aussi un outil qui est très, très utile. Ce qu'on a rajouté comme outil qu'on n'utilisait pas avant, on fait des conférences pour se voir un petit peu ensemble, parce qu'on a besoin quand même de se voir et de se parler. Donc voilà, lundi matin, on a fait notre petite réunion d'équipe, alors à distance, mais on se voit, chacune peut se parler, se dire comment elle va et tout. Donc nous, c'est vrai qu'on peut continuer de travailler complètement. On transforme juste les rendez-vous en rendez-vous téléphoniques. Et alors, ça sera difficile, hein, on le sait tous, hein, tous les cabinets sont confrontés à la même situation, mais le fait d'avoir mis ces outils en place nous permet vraiment de travailler. Et ça, c'est vraiment une bonne chose.
Et qu'est-ce qui vous avait motivé à passer justement ce cap de numérisation à 100%?
Ah, j'arrive pas à dire ce qui nous a décidé, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que avec mon associé, avec Maud, on est constamment en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qui peut faciliter et notre travail à nous et la qualité de notre travail auprès des clients? Donc en fait, on se fait régulièrement des petites réunions pour se dire, voilà, qu'est-ce qui fonctionne, mais qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Et c'est comme ça qu'à chaque fois, naisse un nouveau projet, en fait. Et en fait, ce qui n'allait pas parfaitement bien, c'est que, à un moment donné, moi, je trimballais mes valises de dossiers. Et j'en avais marre de balader mes valises. Donc, quelle solution je peux mettre en place face à ça? Et c'est comme ça, on s'est dit que bah, finalement, il faudrait peut-être être tout en numérique. Et c'est là, on s'est dit, bon, bah alors, ok, on se lance dans ce projet-là. On le budgétise et on met en place le projet. Donc en fait, c'est vraiment l'idée, et je crois que c'est comme ça qu'on peut innover, c'est de se dire, j'ai ça qui m'énerve, alors qu'est-ce que je fais pour le changer ?
Et vous disiez que vous discutez régulièrement avec votre associé, justement, des points d'amélioration possibles. Ça, c'est quelque chose que vous faites à quelle fréquence, à peu près ?
Alors, moi, je pense qu'on l'a toutes les deux un peu toujours en tête, parce que on adore notre métier d'avocat. Vraiment, on est l'une et l'autre passionnées, mais on n'est pas passionnées que par ça. On est passionnées, je crois, par l'entrepreneuriat. Moi, je sais que ça m'anime complètement. J'adore l'idée de me dire, est-ce que je peux améliorer un fonctionnement ? Donc on est toutes les deux tout le temps en train de bouillonner un petit peu d'idées, et je crois que même c'est ce qui nous aide à nous lever le matin en fait. C'est ce qui fait que moi, mon cabinet, j'ai envie de m'en occuper parce que je n'ai pas que l'aspect avocat. J'ai toute cette partie où je me dis mais comment je peux améliorer les choses, et toujours dans deux axes, ça me semble important, c'est l'amélioration client mais aussi l'amélioration pour nous, avocats, et puis pour l'équipe en fait. Il faut toujours avoir ces deux axes de développement. Après, ce qu'on aime bien faire, et c'est là à chaque fois on se rend compte qu'on a nos meilleures idées, c'est quand on part les deux en formation, qu'on sort du cabinet, et c'est comme ça qu'est né les podcasts. Et je pense qu'il faut se prendre des temps en dehors du cabinet pour pouvoir réfléchir à ce qu'on a envie. Et aussi, ce qu'on s'est toujours dit, il faut pas faire pour le faire, il faut le faire parce qu'on a envie, parce que ça nous anime, et pas que par obligation, parce que sinon c'est triste et puis c'est pas motivant en fait.
Et qu'est-ce qui vous fait vibrer dans le métier d'avocat justement ?
Alors, là, je vous parle pour moi, ce qui me fait vibrer, c'est quand je me rends compte lors d'un rendez-vous que par un accompagnement, en prenant le temps d'écouter, j'arrive à faire évoluer les gens dans une situation. Et ça me procure un vrai plaisir, en fait. Je crois que dans mon métier même, c'est ce qui me nourrit, en fait. Et puis la deuxième chose qui me nourrit, c'est de me dire qu'est-ce que notre petit cabinet de province du Jura peut apporter à un niveau plus grand, à un niveau national. Et ça, c'est vraiment motivant de se dire finalement, même nous, on peut apporter quelque chose qui puisse servir de façon nationale, avec l'approche qu'on a, qui est une approche vraiment assumée, de dire on peut divorcer autrement. Cette famille, elle traverse déjà quelque chose de compliqué. Elle est déjà abîmée par une séparation, mais peut-être que nous, avocats, notre rôle, c'est pas d'abîmer encore plus. Comment est-ce qu'on peut abîmer un peu moins cette famille ? Et ça, c'est notre mot d'ordre, et c'est ce que j'appelle notre culture de cabinet.
Et donc... Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que finalement, ce qui est vraiment très important pour vous dans votre métier, c'est l'humain et votre rôle en tant qu'avocat et dans votre spécialisation, c'est d'apaiser les conflits et de rendre cette période de vie qui est une période douloureuse plus apaisée et plus humaine finalement.
Ouais, c'est exactement ça. En fait, nous, on voit notre rôle d'avocat non pas comme celui qui va aller dans un combat. On se voit comme des accompagnants, en fait. C'est-à-dire que je suis pas au-dessus de mon client, je suis pas devant lui pour lui dire ce qu'il doit faire, je l'accompagne. Et quand on prend notre métier d'avocat comme un métier où j'accompagne dans cette situation, le sentiment que j'ai, c'est que les personnes déjà se sentent écoutées, soutenues, et elles avancent beaucoup mieux en fait. Je vois plein de confrères qui sont parfois un peu épuisés du métier, parce que c'est un métier qui est difficile, mais parce qu'ils se mettent parfois eux-mêmes en propre conflit avec leurs clients. Parce qu'ils fuient leurs clients leur courent après, ils ont l'impression de tous être harcelés par le client. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup ce que j'appelle la relation client. Et maintenant, je vais même pour former les confrères sur cette approche-là. Nos clients, ça doit pas être des ennemis, on doit pas rentrer de nouveau en conflit avec eux. Mais peut-être que si on est dans ce fonctionnement-là, c'est parce qu'on n'a pas pris notre rôle d'avocat de la bonne façon, en fait. Et qu'une vision plus d'accompagnant, d'être vraiment à l'écoute de l'autre, vraiment vouloir comprendre ce qui se passe pour lui. On rentre dans une relation qui est complètement différente avec le client. Et on rentre dans ce que j'appelle une relation de confiance. Et quand on se fait tous confiance, que le client me fait confiance, que moi aussi je lui fais confiance, on travaille, mais dans une autre logique. Et pour moi, tout ça repose sur l'écoute. Et en tant qu'avocat, la première formation qu'on devrait trouver dans les écoles d'avocats, c'est l'écoute active. Écouter notre client vraiment. Et ça s'apprend. On croit tous qu'on sait écouter, c'est pas vrai. Vraiment, il y a des méthodologies pour écouter. Et moi, je le dis toujours quand je fais mes formations. Au départ, quand j'ai fait mes recherches sur la relation client, parce que ça m'intéressait beaucoup, savoir ce que le client y ressent quand il vient dans un cabinet d'avocat, mon but, c'était d'améliorer la satisfaction de mes clients. Et en fait, en travaillant sur la relation client, finalement, ça a amélioré effectivement la satisfaction client, mais ça a aussi amélioré mes conditions de travail. Parce que quand on n'est pas en train de lutter face à un client, je peux vous dire qu'on n'y passe plus la même énergie, on y passe une énergie qui est plus positive. Donc c'est indispensable de travailler sur cette approche-là en fait. Quand je fais mes formations, certains confrères viennent m'opposer en disant « mais on n'est pas psychologue ». Et je leur réponds « effectivement, je ne suis pas psychologue ». D'ailleurs, j'essaie pas de résoudre leurs problèmes psychologiques. Et souvent, quand il y a une problématique assez lourde, je les renvoie vers des psychologues. Par contre, je considère que je dois avoir conscience de cet impact-là. Je dois savoir en tant que professionnel que quelqu'un qui traverse une séparation, il y a une période de sa vie où il va être dans un tel état de souffrance qu'il ne pourra pas entendre mes informations. Parce que si je ne le sais pas, pour le coup, je fais du mauvais boulot. Je vais lui donner des informations que son cerveau n'est pas capable de recevoir.
Et vous parliez d'écoute active et de savoir écouter son client. Est-ce que vous avez toujours eu cette écoute ou est-ce que vous l'avez appris ?
Alors, je pense que j'avais un petit peu cette sensibilité-là et puis c'est vrai que les gens m'intéressent, donc j'écoutais. Mais surtout, j'ai eu la chance de faire une formation en processus collaboratif que je conseille à tout le monde de faire. Et dans cette formation, il y a une partie sur l'écoute active. Donc c'est-à-dire une formation concrètement sur comment écouter. Et ça m'a permis de me donner des outils que je n'avais pas en fait. Et ensuite, j'ai pu refaire cette formation au sein de mon équipe parce que même les assistantes, j'ai envie de dire tout le monde doit être formé à cet outil-là. Et donc ça, il existe des formations, après il existe des livres. Moi, comme ça me passionnait, je me suis renseignée, j'ai creusé un peu la question. Je vais moi-même maintenant former des confrères en Suisse sur cet outil-là. Donc, je pense qu'effectivement, il faut se former. Quand je dis que ça doit être aussi dans les écoles d'avocats, il faut sensibiliser à cette approche-là.
Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les éléments caractéristiques du droit collaboratif ou processus collaboratif ?
Alors, en fait, le processus collaboratif, c'est un outil qui est à disposition des avocats pour permettre de régler des litiges sans passer devant le juge, mais surtout en aboutissant à ce qu'on appelle un accord gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le but, c'est que les deux parties soient satisfaites. Parce que moi, je suis convaincue que si tout le monde trouve finalement un accord qui lui convient, on va réussir à apaiser finalement la situation. Et puis on peut faire du sur-mesure avec un processus collaboratif. Devant un juge, on peut pas faire du sur-mesure. Et donc tout le principe du processus, c'est de rechercher les vrais besoins de notre client et de travailler sur ses besoins. Mais pour ça, il faut être formé à ce processus. On peut pas s'improviser avocat en droit collaboratif. La formation, pour moi, elle est indispensable. Et cette formation, elle m'a permis de me conforter dans les convictions qu'on avait, de se dire, il était important de changer de paradigme, de changer de vision sur la façon dont on aborde le conflit.
Donc, ça vous a fait changer dans votre façon de travailler?
Alors oui, ça m'a complètement fait changer. C'est-à-dire que on s'est interdit de voir ce qu'on appelait l'autre partie comme un adversaire. C'est-à-dire que l'autre partie, non, c'est pas un adversaire, c'est aussi un partenaire de travail. Ça a permis aussi de conforter dans le fait que l'écoute active, c'était le bon outil et qu'il va falloir le mettre en place dans tous les dossiers. C'est-à-dire que on peut pas faire des processus collaboratifs dans tous les dossiers parce que soit en face, le confrère n'est pas formé, soit les clients ne souhaitent pas. Donc, on peut pas le faire dans tous les dossiers. Par contre, l'état d'esprit, la culture du processus collaboratif, on peut la mettre dans tous les dossiers. On peut même la mettre dans mes plaidoiries. C'est-à-dire que je plaide plus de la même façon. Je vais plus plaider sur ce que j'appelle les besoins de mon client plutôt que d'être dans l'agressivité de l'autre partie. Ça sert à rien. Ça fait que abîmer les choses, ça énerve les magistrats. Donc finalement, le processus collaboratif, il est infiltré partout dans le cabinet, il est infiltré dans tous nos rendez-vous, dans la façon dont on gère les dossiers, dans la façon dont on plaide, pour amener une autre façon d'aborder le conflit. Mais tout en étant au service du client, c'est-à-dire que on n'est pas besoin d'être dans l'agression de l'autre partie pour servir nos clients. Et c'est quand même beaucoup plus intéressant, plus constructif d'être sur cette recherche plutôt que d'être dans l'agression de l'autre. Vraiment, moi, j'ai aucun regret d'avoir axé notre façon de travailler dans cette direction. J'ai fait un épisode podcast, le numéro 7, pour l'expliquer de façon plus longue, parce que là, on n'a pas tout le temps pour vous l'expliquer, mais ça permet de reprendre le système, comment ça fonctionne, un peu plus détaillé en tout cas.
Oui, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Comme ça, il y aura un lien directement vers votre épisode avec Laurent.
Oui, c'est ça. C'est une bonne image, ça permet de comprendre.
Oui, tout à fait. Et donc, cette recherche du besoin de votre client, c'est ça qui fait la différence avec les autres modes alternatifs de règlement des litiges ?
Oui, complètement. Alors, cette recherche des besoins, ça, c'est vraiment été une découverte pour moi grâce au processus collaboratif. Pour essayer de faire simple, quand votre client vous dit « je veux garder la maison » ou « je veux tel montant de pension alimentaire », c'est ce qu'on appelle une position, mais ce n'est pas un besoin. Et en fait, quand on travaille sur les besoins, on amène tout un questionnement auprès du client pour rechercher quel est le besoin derrière cette position qu'il demande. Et en fait, quand on travaille sur le besoin et plus sur la position, déjà on fait un vrai travail de fond, mais surtout, ça a deux impacts. Ça permet au client de se sentir entendu dans sa situation, il se dit « ah oui, on prend bien en compte ma demande » et ça me permet aussi de mieux faire entendre la demande auprès soit du magistrat ou auprès de mon confrère quand je travaille sur les besoins.
Et est-ce que vous pensez que ce processus collaboratif, il peut être mis en place dans tous les domaines du droit ou est-ce qu'il se prête plus à certains domaines?
Alors en fait, ce processus au départ, il était vraiment axé en droit de la famille. Parce qu'on s'est dit, c'est dans ces matières-là, on a besoin de garder du lien entre les personnes. Et puis finalement, avec l'expérience, avec finalement le fait que certains avocats se soient emparés de cette matière, on se rend compte que ça marche dans tous les domaines du droit. Et c'est ça qui est intéressant. Et notamment, ceux qui sont bien débrouillés, je trouve, c'est ceux en droit des affaires, justement, qui ont réussi à mettre en place le processus collaboratif. Ils ont vite vu l'intérêt que ça pouvait avoir. Ça avait un intérêt pour leurs clients, pour gagner du temps. Ça avait aussi un intérêt pour leurs clients en termes d'image dans des sociétés, de pouvoir dire, bah voilà, nous on règle nos conflits de cette façon-là et c'est quand même une meilleure image plutôt qu'un conflit devant des tribunaux. Donc en fait, en droit des affaires, ils s'en sont beaucoup saisis. Dans les conflits entre associés, ça marche très bien. Et aussi en droit du travail. Ce qu'il faudrait, c'est que les clients soient informés de ce processus. Parce que je pense que la demande, elle va venir de leur part, en fait. Moi, j'avais fait passer un article dans la presse après m'être formée en droit collaboratif. Et le titre, c'était « Divorcer autrement ». Et j'avais des gens qui venaient dans mon bureau en me disant « Mais nous, on veut ça. On veut ce truc-là, en fait. » Et c'est pour ça que je pense que l'information, elle est importante. De dire que, voilà, on peut divorcer avec un juge ou autre. Donc, il y a aussi d'autres méthodes qui existent pour apaiser le conflit, pour essayer de vous aider dans la gestion de votre séparation. Moi, je sais que dans ma salle d'attente, il y a des prospectus sur le processus collaboratif. Il y en a aussi sur la médiation, parce que je n'oppose pas l'un et l'autre, mais effectivement, il faut donner de l'information.
Oui, c'est ça. Karine, vous avez aussi mis en place toute une série d'outils innovants à destination de vos clients, et notamment un podcast qui s'appelle « Parlons divorce avec Karine ». Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire ce qui vous a conduit à créer ce nouveau canal de communication?
Alors, comme vous l'avez dit, on est en recherche constante avec mon associé d'outils pratiques. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans une séparation, il y a le droit, mais il n'y a pas que le droit. On est souvent confronté à des petits problèmes pratiques, des choses très concrètes. Et en fait, donc avant les podcasts, on avait mis d'autres outils. Par exemple, on avait fait des agendas magnétiques pour les parents, pour qu'ils puissent aider leurs enfants à se repérer dans les jours de garde alternée et autres. Donc en fait, on a toujours eu cette logique de dire comment est-ce qu'on donne des outils pratiques pour les gens qui sont confrontés à la séparation. Par rapport au podcast, en fait, l'idée, elle est venue, comme je vous l'ai dit, quand on était avec mon associé lors d'une formation un peu à l'extérieur. On était, je me souviens, les deux, après une journée de formation, à se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et je lui dis, écoute, j'adore écouter des podcasts, mais est-ce qu'on pourrait pas le faire pour le droit aussi? Et c'est comme ça que ça a émergé. Parce que finalement, quand on est en séparation, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'avoir des informations pareilles, faciles à écouter, simples et concrètes? Donc c'est comme ça qu'est née l'idée des podcasts et je me suis dit, bah je vais essayer de faire un peu tout le cheminement et toutes les questions qu'on peut se poser lors d'une séparation. Et c'est pour ça que dans les différents épisodes, on a aussi bien des questions qui sont juridiques, des questions techniques sur quelle procédure choisir, comment fonctionne un divorce consentement mutuel, enfin voilà, toutes les questions très juridiques, mais aussi toutes les questions plus psychologiques, tous les aspects qui sont très douloureux dans une séparation, mais dont on n'ose pas vraiment parler. J'avais envie d'aborder ces questions-là. Donc voilà, en fait, l'outil du podcast, c'est vraiment un outil qui est génial parce que ça permet de donner une information oralement, de la donner à une échelle qui est incroyable. Moi, je vois maintenant la façon dont c'est diffusé, le nombre d'écoutes que je peux avoir dans plein de pays différents en plus. Enfin, c'est un outil qui est extraordinaire. C'est un outil qui se développe parce que quand on est en voiture, dans les transports, c'est pratique de pouvoir écouter ce genre de format. Et puis surtout, c'était une façon pour moi d'utiliser un système qui me plaît bien. Je crois qu'il faut faire avec ce qu'on est. Mon associée, par exemple, elle adore écrire. Donc elle nous fait des fiches absolument super. Moi, ça me convient pas à l'écrit. Je suis pas très à l'aise. Par contre, je me sens plus à l'aise à l'oral. Bah finalement, cet outil podcast, voilà, on l'a mis en place aussi par rapport à ce que je suis. Ça me convient bien, moi, de raconter par le biais des podcasts comment fonctionne une procédure. Le but, c'est pas que ce soit joli et bien écrit, le but, c'est que les gens comprennent. Donc en fait, ce système, il me convient bien. Donc je le fais pas dans la souffrance, je le fais avec plaisir quand j'enregistre un épisode.
Et justement, vous parliez du fait de raconter comment se passe une procédure et pour que les gens comprennent. On parle beaucoup de langage juridique clair aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, vous, aussi via votre podcast pour que ce soit intelligible pour tous?
Moi, c'est mon mot d'ordre, en fait. Et souvent, alors, je bouscule un petit peu les confrères quand je fais certaines formations. Je leur dis, mais relisez vos courriers, vous allez vous rendre compte qu'ils sont incompréhensibles. Faites-les lire par des membres de votre famille qui ne sont pas juristes. Vous allez voir, ils vont rien comprendre. Et je dis toujours, on a une obligation, nous, en tant qu'avocats, de donner une information claire et utile. Donc ça sert à rien de faire des belles phrases compliquées avec des termes juridiques, les gens ne les comprennent pas. En fait, c'est notre obsession et je sais qu'on a encore du travail à faire parce que quand on est professionnel d'une matière, nos termes, notre vocabulaire, il est ancré en nous, il nous paraît évident. Sauf que pour les gens qui n'ont jamais été confrontés au droit, il n'y a rien d'évident. Donc il faut revoir tous les termes juridiques. Quand on parle d'une ordonnance de non-conciliation, c'est du chinois. Donc faut dire, c'est la première fois on va devant le juge pour parler de la séparation. Il faut se rendre accessible, il faut faire du simple. Et nous, on fait tout un travail même avec les courriers du cabinet, pour les reprendre en se posant la question « est-ce que c'est clair ?» Quand on parle par exemple d'une mise en état dans nos courriers, je suis désolée, c'est pas clair. Donc même si ça paraît peut-être assez basique comme façon de parler, mais je m'en fiche, moi tout ce que je veux c'est que mes clients ils aient compris. Et tant qu'ils n'ont pas compris, je leur dis « vous me reposez des questions, vous me demandez ». Souvent les gens n'osent pas poser des questions, ils ont toujours l'impression d'embêter ou de dire « je suis nulle, j'ai pas compris ». Donc faut les mettre très à l'aise avec ça. Moi en rendez-vous, je fais un dessin sur la procédure parce qu'il y a des gens qui sont visuels et qui vont comprendre avec un dessin. Et donc ça doit constamment être notre mot d'ordre « est-ce que j'ai été claire et simple ?» Et une des bonnes façons de le savoir, c'est déjà de poser la question à son client « est-ce que vous avez tout compris ?» et « est-ce qu'il y a des choses où j'ai pas été claire ?» Et aussi, nous on le fait avec nos amis, avec notre famille qui sont pas juristes, on leur montre parfois des courriers en leur disant « mais est-ce que ça je suis claire ?» lorsqu'on fait des fiches et autres, et puis ils nous disent « ah non mais ça j'ai rien compris » et ça nous permet de revoir notre copie. Et on travaille avec un communicant qui n'est pas juriste et c'est vraiment intéressant parce que lui nous fait des retours en disant « écoutez là, vous êtes bien gentil mais j'ai rien compris ».
Ce communicant avec qui vous travaillez, et vous êtes sur quels aspects du coup ?
Donc c'est Nicolas Bouvray, je le présente parce que c'est quelqu'un qui est vraiment important maintenant dans le cabinet. C'est lui qui a fait nos premières communications sur les réseaux. Et c'est grâce à lui que sont nées les vidéos où on aborde certains sujets et on l'aborde avec des enfants qui sont filmés sur des petites scènes parce qu'on s'est dit, il faut qu'on puisse toucher les parents pour leur faire entendre certaines choses et peut-être que la voix d'enfant, ça sera une bonne solution.
Ces vidéos donc que vous avez mises en place sans ces émotions, j'en ai regardé pas mal et je trouve qu'elles sont très très bien faites, que le ton est très juste, c'est très drôle et j'ai trouvé ça très touchant.
Je vous remercie. Je trouve qu'il faut revenir à l'essentiel dans les séparations et je trouve que la voix des enfants, c'est peut-être là l'essentiel en fait. Et donc, lui donner l'idée, et lui ensuite, il écrivait le scénario, il s'occupait du montage, etc., des films. Pour les podcasts, c'est lui qui m'aide pour les mises en ligne et puis pour la communication. Et là, on vient récemment de s'associer avec lui dans une nouvelle société, on vient de créer la société Devlex, pour développer un nouvel outil, à savoir le divorce en ligne. Et ça, on s'est associé avec lui parce que on se rend compte que si nous, on reste tout seul, professionnel du droit dans notre coin, je pense que on s'enferme dans un système et puis on a besoin d'autres partenaires qui ont une autre vision que la vision du droit.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette nouvelle plateforme de divorce en ligne que vous avez lancée ?
Alors, c'est mis en ligne depuis lundi dernier, donc vous voyez, c'est tout récent. Alors, on pensait pas le mettre en place dans le cadre du confinement, mais on travaille sur ce projet depuis maintenant plus d'un an. Ça s'appelle Divorce Simple. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on est parti d'un constat, c'est que le coût d'un divorce amiable est élevé. Il se développe des plateformes en ligne. Et donc, on est allé voir un peu ce qui se faisait et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de critiques par rapport à certains divorces en ligne, en disant que c'était un peu bâclé, que c'était parfois déshumanisé. Et nous, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire entre les deux, c'est-à-dire garder une humanité, mais aussi quand même simplifier la procédure et aussi faciliter et réduire le coût. En fait, le but, c'est d'automatiser certaines choses qui peuvent être faites par le client sans que ce soit fait par nous. Et en fait, avec Divorce Simple, on a travaillé avec des informaticiens pour mettre en place un système qui va permettre de générer, par les informations données par le client, la convention de divorce derrière. Mais on garde le lien humain, c'est-à-dire que nous, il y a un lien par téléphone qui est mis en place. On diffuse également tous les podcasts à chaque question. Par exemple, à un moment donné, on arrive sur la question de la prestation compensatoire, ils ont le lien avec le podcast. Alors, on l'avait pas fait pour ça au début, les podcasts, mais finalement, on se dit c'est un super outil parce que quand on aborde ce sujet-là qui est compliqué, moi, j'avais déjà créé le podcast sur la prestation compensatoire et on a l'information directement en ligne. Donc, c'est pas un système de divorce pas cher du tout parce que ça a quand même un coût de prendre le temps d'aider les gens. Mais par contre, il y a des choses où on pouvait réduire le coût. On est fiers de ça parce que on a utilisé ce qui était pour nous important, c'est-à-dire on utilise l'innovation, on modernise la façon de faire, mais en même temps, on garde le lien humain. On veut pas un divorce bâclé, mais on utilise quand même l'outil informatique qui peut permettre d'être une économie de coût et puis pour nous, faciliter la vie aussi. C'est-à-dire que si on doit faire du volume à un moment donné, il faut aussi qu'on apprenne à gagner du temps et puis à faciliter le travail des assistantes qui travaillent avec nous.
Et donc, si j'ai bien compris, en fait, vous avez un système de questionnaire destiné au client. Donc, le client remplit un certain nombre d'informations dont vous avez besoin, qui sont en fait les variables de la convention de divorce amiable. Et ensuite, ça génère, du coup, automatiquement la convention. Et comment ça se passe après?
Alors, en fait, il y a plusieurs formules d'accompagnement. Il y a des gens qui vont pas vouloir du tout d'échanges téléphoniques, qui sont déjà très carrés sur ce qu'ils veulent et quelque part, eux, ils ont pas du tout besoin d'échanges. Et puis, il y a d'autres personnes qui auront besoin d'un échange. Donc, en fait, on adapte en fonction de la demande et justement, toujours pareil, du besoin du client. Donc, en fait, avant qu'il en arrive à remplir son formulaire, il y a déjà un entretien sur un devis, c'est-à-dire sur quel montant on part et quel est le besoin du client. Donc, déjà là, il y a un échange téléphonique.
D'accord.
Et ensuite, dès que la convention est régularisée, ils vont pouvoir rentrer leurs données et qui va générer le document et ainsi de suite.
Ok. Et donc en fait, l'idée de la mise en place de ce site, c'était de permettre à la fois de gagner du temps et en même temps de conserver une partie importante qui est l'humain et l'accompagnement si jamais ça fait partie des demandes du client.
C'est ça. Parce qu'en fait, on s'est dit, dans tout notre métier d'avocat, il y a une part d'administratif qui est quand même très importante. Donc finalement, c'est utiliser les outils qui sont à notre disposition pour finalement gagner du temps sur ce qui pour moi n'a pas de valeur ajoutée. Très honnêtement, mais remplir une convention, ça n'a pas de valeur ajoutée. Donc autant mettre de la valeur ajoutée sur ce qui est important. Faire payer le fait de remplir une convention, alors que faut être honnête, on a des modèles, on a plein de choses. Pour moi, c'est pas de la valeur ajoutée. Faut aussi être honnête avec notre métier, avec ce qu'on apporte. Par contre, j'ai plein d'autres choses à apporter. Après, il y a aussi des gens qui ont peut-être pas envie qu'on leur apporte ça, parce qu'ils sont mis d'accord sur tout, ils veulent qu'on leur fiche la paix, ils veulent le faire simplement, et ça aussi, c'est à respecter. Et donc aujourd'hui, avec mon associé, on est fiers de ce produit qu'on a lancé, parce que on donne un service qui est un service de qualité, on simplifie ce qui peut être simplifié, on automatise ce qui peut être automatisé et sans abîmer la relation humaine.
Bah en tout cas, c'est un super projet et je pense qu'effectivement, surtout dans une matière comme la vôtre, je pense que c'est important de permettre de garder ce lien humain si, encore une fois, comme vous le disiez, c'est le souhait du client. Et je pense que un des éléments qui est intéressant avec l'innovation et l'utilisation d'outils technologiques, c'est justement qu'on puisse consacrer plus de temps à ces tâches qui font le cœur de notre activité et qui font le cœur de notre métier et qui sont des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Vous avez complètement raison. Et c'est pour ça qu'il faut pas opposer d'un côté ceux qui vont faire du divorce en ligne au lien humain. Et après notre idée, donc là on le met sur notre fonctionnement de divorce en ligne, mais c'est aussi de le généraliser à notre pratique du cabinet, qui est un outil pour que le client voilà remplisse ses données et ça génère des documents. Ça va être un temps gagné. Et même pour les filles du cabinet, elles ont beaucoup plus de plaisir à appeler les clients, à avoir une discussion avec eux, plutôt que de remplir un formulaire. Ça n'apporte rien à personne. Et c'est pour ça que j'aime bien ce progrès qui se met en place parce que c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour le client, puis c'est gagnant pour nos équipes. Ça leur permet de faire du travail plus intéressant. Moi, je vois mon assistante, ça lui permet d'aller en formation, ça lui permet de faire des actes maintenant plus compliqués. Je la vois progresser dans plein de domaines. Et si je la laisse toujours à ses tâches basiques de remplir les conventions, bah, elle pourra pas progresser. Donc, c'est aussi une utilité pour les membres du cabinet. Ils ont tous envie d'évoluer. D'ailleurs, c'est une chose qui me semble importante. Il faut faire attention au sein de nos équipes. Si on veut les garder motivés, il faut leur proposer d'évoluer, leur proposer de faire d'autres tâches, les faire avancer sur d'autres domaines. Sinon, on finit par s'ennuyer, en fait.
Oui, c'est très juste. Et je pense que avoir des perspectives de développement, de nouveaux outils, de nouveaux chantiers à mettre en œuvre, etc., c'est aussi ce qui fait que on se projette dans l'avenir au sein d'une structure, parce que la structure évolue avec notre société. On a un vrai projet d'avenir.
Exactement. Ouais. Et puis ça permet aussi, vous voyez, que dans la zone de crise dans laquelle on est, de pouvoir dire mais on est solide. Parce que finalement, notre divorce en ligne, on a anticipé des choses aussi avec ça. Et ça, c'est aussi important pour une équipe de savoir que, ouais, on a créé quelque chose qui est solide, quelque chose dans lequel on peut évoluer. Mon associée, Maude, elle a commencé comme secrétaire au sein du cabinet Granvelle. Et puis, elle nous avait dit, mais moi, je veux reprendre mes études, je veux devenir avocate. Elle avait un BTS, elle avait rien de plus. Et on a dit, ok, moi, ça me plaisait bien, cette énergie qu'elle apportait. Et ben, elle a réussi. Elle est devenue avocate et maintenant, elle est associée du cabinet. Donc, on a aussi le mot d'ordre aux filles en disant, voilà, tout est possible. Moi, je ne crois qu'en ça. Je ne crois qu'avec l'envie d'évoluer et d'être en mouvement. Un cabinet qui n'est pas en mouvement, c'est un cabinet qui va finir par s'ennuyer, qui peut être en danger par la suite aussi dans son existence.
Ah, c'est un très bel exemple, l'exemple de votre associé. Ça montre que tout est possible quand on a la volonté de se dépasser, d'aller au bout de ses ambitions et de ses rêves.
Vous disiez tout à l'heure que toutes ces innovations mises en place, ça vous permet en fait de gérer la crise actuelle et de gagner du temps. Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les podcasts et notamment le fait que vous avez mis en ligne les épisodes de votre podcast sur votre nouveau site de divorce en ligne. Je trouve que c'est vachement intéressant comme exemple parce que finalement, lors d'un rendez-vous client, on n'a pas forcément le temps d'expliquer tout ce qui va se passer, toute la procédure, etc. Et est-ce que, du coup, vous renvoyez vos clients aux épisodes de votre podcast? Et est-ce que ça vous permet de finalement leur donner une meilleure information juridique, enfin plus complète, que si vous n'aviez pas mis en place cet outil?
Ouais, complètement. Je vais vous donner un exemple tout simple. Avant une audience, les clients, ils sont stressés. Genre, ils sont stressés, mais à un point qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire que c'est vraiment l'angoisse pour eux d'aller à une audience. Ils vont être confrontés à un juge, à un monde qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a une grosse source d'inquiétude. Donc, avant, ce que je faisais, c'est que j'essayais, alors j'y arrivais pas tout le temps, mais j'essayais d'appeler les clients pour leur réexpliquer comment allait se passer l'audience et autres. Puis, à un moment donné, le volume de dossiers fait qu'on n'a plus le temps de faire ça. Alors, j'ai créé un podcast sur comment se déroule une audience, où j'explique vraiment, même à l'arrivée, avec le système de sécurité, ce qui va se passer, est-ce qu'ils doivent avoir leur carte d'identité ou pas. Et finalement, je leur envoie le lien sur le podcast une semaine avant. Et si vous saviez les retours que j'ai, mais les gens me disent « mais merci, oh ça m'a fait du bien, ça m'a rassuré, j'ai pu visualiser ce qui allait se passer ». Donc finalement, tout le monde y gagne. Moi, je l'ai enregistré une fois, mon épisode. Il sert à tous mes clients qui vont aller en audience. C'est une demi-heure où j'explique dans le détail ce qui va se passer, même comment se situe la salle d'attente à peu près dans le Jura, parce que j'expliquais un peu comment nous ça se passait. Donc ils sont rassurés. Moi, ça ne me demande pas de temps en plus. L'enregistrement, il est fait. C'est vraiment l'exemple de la scalabilité. C'est-à-dire que je donne un service, mais que j'ai déjà enregistré, c'est-à-dire que moi ça ne me demande pas de travail en plus, mais j'ai un client qui est rassuré.
Et qu'est-ce que vous avez eu comme retombée suite à la création de votre podcast ?
Alors les retombées, la première c'est le nombre d'écoutes, on est vraiment assez surpris sur le nombre, on est à plus de 16 000 écoutes, on s'attendait pas à des chiffres comme ça. On a été classé dans Apple Podcast deuxième d'écoute dans le domaine famille et parents, donc ce qui était incroyable pour nous. Le deuxième retour, c'est qu'on a maintenant des clients qui nous appellent d'un peu partout de la France. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé le divorce en ligne. Parce qu'en fait, les gens, ils me disent, mais moi, je veux que ce soit vous qui me divorciez parce que comme j'ai écouté tous vos podcasts, j'ai l'impression de vous connaître. Mais c'est ça qui est génial finalement. C'est que chaque événement va créer une nouvelle situation. Genre, quand on a créé le podcast, j'avais pas imaginé qu'on aurait ensuite un rayonnement national. Et finalement, on se retrouve avec des demandes qui sont au niveau national. Donc, vous serez adapté. Mais c'est ça qui est super. C'est que chaque événement nous demande de progresser et amène la création de quelque chose de nouveau. Et donc, c'est assez génial. Et puis maintenant, des confrères s'intéressent à ce que je fais, donc j'interviens de plus en plus dans des conférences pour parler du métier d'avocat et du développement, pour aider les confrères à développer aussi leur cabinet. Alors, ça prend du temps, un podcast, c'est-à-dire que c'est pas le premier mois où on voit les retombées. Là, maintenant, ça fait plus d'un an et c'est au bout d'un an qu'on voit les retombées.
Donc finalement, en fait, l'utilisation de ce moyen de communication, ça vous a permis d'attirer une clientèle qui est élargie à l'ensemble du territoire et de passer finalement d'une échelle plutôt local à national?
Complètement, c'est exactement ça. On avait nos dossiers dans le Jura, un peu la Franche-Comté, et là maintenant, clairement, on a une clientèle qui est nationale. Donc nous, maintenant, notre question, c'est comment est-ce qu'on répond le mieux possible à cette demande-là?
Et comment ça se passe concrètement pour la création de votre podcast? Qu'est-ce que ça représente en termes de temps et d'investissement de votre part?
Je vais être honnête, pas tant que ça. En fait, comme je l'ai fait tellement spontanément mes podcasts, les sujets que j'aborde, je les connais très très bien. C'est ce que je fais tout le temps avec mes clients. Donc en gros, je ne traite un sujet déjà que quand je l'ai complètement assimilé et je me fais juste un plan, la structure de ce que je veux dire, mais je ne l'écris pas complètement. Donc ça me gagne déjà du temps. Et généralement, j'en enregistre 4 et ensuite je les envoie à quelqu'un qui s'occupe du montage. Parce que si je voulais tout faire, le montage et la diffusion derrière, là pour le coup, j'y arriverais pas. C'est pour ça aussi qu'il faut savoir s'entourer de certaines personnes. C'est Arnaud Cimetière qui s'occupe de ça. Et ensuite, c'est Nicolas Bouvray qui m'aide pour la mise en ligne, pour la diffusion.
D'accord,
et
autres. Ok.
Et en plus, c'est enrichissant parce que Arnaud me donne aussi son avis sur ce que je fais. C'est toujours aussi, c'est enrichissant de travailler à plusieurs. Ça permet d'avoir un autre regard, ça permet de gagner du temps, puis de rencontrer de nouvelles personnes. C'est toujours, c'est assez enrichissant.
Et vous avez aussi, sur votre site internet, mis à disposition de vos clients une série de questions-réponses, des urgences du droit, et également des fiches pratiques sur la gestion du divorce, que ça soit d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue juridique. Est-ce que ça se recoupe avec le podcast? Qu'est-ce qui vous a poussé à les mettre en place? Qu'est-ce que ça vous apporte?
En fait, ça, c'est les premiers outils qu'on a mis en place parce que cette recherche d'innovation et de progrès, elle date depuis quelques temps. Et en fait, on a commencé par les fiches et ensuite, on a fait les urgences du droit parce qu'en fait, j'avais fait le constat que c'était quand même des questions récurrentes que les clients me posaient et je me suis dit, comment est-ce que je peux créer un système pour que les gens aient une réponse, même le week-end, même le soir tard, quand moi, je suis pas disponible pour leur répondre. Et là, j'ai travaillé aussi avec Nicolas et puis avec un informaticien, c'était super intéressant, avec un système de questions en cascade pour pouvoir aboutir aboutir à leur réponse. Donc, notamment, on avait souvent la question où un des parents ne ramenait pas l'enfant après un droit de visite. Et ça, souvent, c'est une question qui se pose le week-end. Et moi, le week-end, je suis fermée. Donc, j'ai créé un système de questions pour que les gens sachent ce qu'ils ont à faire. Donc, ils répondent, est-ce qu'ils sont mariés ou pas? Est-ce qu'il y a un jugement ou pas? Et donc, en fait, ça amène à la solution qui correspond à leur situation. En fait, on s'est toujours dit, mais comment est-ce qu'on donne une réponse à des questions de nos clients sans que nous, on soit forcément derrière notre ordinateur ou au cabinet? Parce que les questions urgentes, elles se posent justement quand c'est le week-end, quand c'est le soir. Donc, les urgences du droit, c'est ancien maintenant, mais ça marche toujours. Je sais que les clients les utilisent toujours. Mais c'était dans cette logique de dire, comment est-ce que je crée de la scalabilité avec un métier de service? Et puis, à chaque fois, on va un peu plus loin. Donc là, c'était les urgences du droit. Et puis maintenant, on le met en place avec les podcasts. Et puis maintenant, avec le divorce simple en ligne, enfin voilà.
Et vous avez aussi mis en place une box aux petits plaisirs qui contient 60 idées de petits plaisirs à se faire lorsque la crise familiale en fait sentir le besoin. D'où vous est venue cette idée ?
Pour le coup, l'idée, elle nous est venue avec mon associé du fait de traverser soi-même ce genre de situation. Et on se souvient l'une et l'autre de l'avoir vécu en étant complètement perdu, en ayant l'impression d'avoir plus envie de rien, de plus avoir de plaisir pour rien. Et en fait, dans cette box, on a mis des petites choses pour justement prendre soin de soi. Et je sais que souvent les gens sont touchés parce que ils s'attendent pas à ce qu'on se soucie de ça. Et ça permet aussi de donner une autre dimension dans la relation avec le client. Et donc dans cette petite boîte, on trouve tout ce qui nous a fait du bien dans des moments qui sont compliqués. Alors ça passe par des idées de films, des idées de lecture, des propositions pour faire un peu de la méditation avec certaines applications. On parle aussi du podcast Change ma vie qui peut aussi aider dans des moments difficiles. Enfin voilà, on a essayé de mettre ce qui peut aider dans des moments compliqués. Donc c'est vraiment, c'est pas du droit, mais c'est un moment qui est une réalité dans la séparation. Et ça me semble important de pouvoir dire qu'on sait que c'est difficile. C'est dans cette notion d'accompagnement en fait. C'est-à-dire que vraiment, on voit notre métier comme j'accompagne dans un moment difficile et qu'est-ce que je peux faire pour être le bon accompagnant.
On entend de plus en plus, ou on lit de plus en plus d'articles aussi sur le fait que finalement, les demandes des clients ont évolué et ils attendent des avocats cet accompagnement. Alors, dans votre domaine, donc c'est beaucoup d'humains. Dans d'autres, ça sera d'avoir une approche business et de se comporter un peu comme un partenaire business. Enfin, il y a vraiment cette notion d'accompagnement qui est de plus en plus forte et qui, je pense, est de plus en plus demandée par les clients. On peut aussi, en tant qu'avocat, être capable de s'adapter à l'évolution de la demande.
Complètement. Et puis, c'est plus intéressant. Et je pense que c'est aussi important que l'avocat travaille de cette façon pour son bien-être à lui. C'est tout l'objet des conférences que je fais auprès des confrères sur le bien-être au travail. Et il y a tout un travail que l'avocat doit faire sur la gestion de son temps, sur la relation avec son client. S'il travaille la gestion du temps, la relation client, il améliore véritablement son confort de travail. Sur la gestion du temps, vraiment, il y a des choses toutes simples à mettre en place pour gagner du temps, pour pouvoir faire des choses plus intéressantes.
Et à quoi vous pensez, par exemple, quand vous dites qu'il y a des choses toutes simples à mettre en place pour gagner du temps, pour en dédier plus aussi à la relation avec les clients ?
Il y a un point sur lequel je peux être un peu rigide, c'est sur la gestion du temps. C'est-à-dire qu'il faut savoir poser un temps limite, même à ses clients. Par exemple, moi je fais beaucoup de choses par téléphone parce que je me suis rendu compte que je gagnais du temps et je faisais de la satisfaction client. On reçoit beaucoup de mails, les avocats. Et je dis toujours, mais répondez plus par téléphone que par mail. Vous allez gagner du temps. Par contre, vous allez gagner du temps si vous encadrez ce temps. C'est-à-dire que moi, quand j'appelle un client, je lui dis, voilà, j'ai un quart d'heure à vous consacrer. Alors ça peut paraître assez surprenant, le fait que j'annonce le temps que j'ai à lui consacrer, mais c'est transparent. Et aucun de mes clients ne le prend mal quand je lui dis, voilà, j'ai un quart d'heure à vous consacrer ou j'ai une demi-heure, mais en tout cas, je lui dis le temps que j'ai. Parce que ça me permet d'être respectueux avec mon agenda, respectueux avec mes autres clients, et personne ne le prend mal. Et surtout, on s'est rendu compte que nos dossiers avançaient beaucoup plus vite en prenant notre téléphone. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. On peut automatiser des réponses en se créant des bibliothèques de réponses parce qu'on sait que c'est quand même souvent les mêmes thèmes qui sont répondus. Donc, nous, on s'est fait un petit, on l'appelait le wiki du cabinet. Et puis, la deuxième mise en place, c'est le téléphone. C'est de dire, on appelle les clients. Alors, quand je parle de ça aux confrères, on me dit, vous ne prenez pas en compte le problème de responsabilité s'il n'y a pas de réponse écrite, etc. Alors, souvent, je me fâche un petit peu avec ça parce que je leur dis, moi, je me lève le matin pour essayer de servir à des clients. Et donc, peut-être que je prends un risque, mais en tout cas, c'est un choix que j'assume et dont je prends la responsabilité. Parce que faire des courriers qui font des kilomètres pour couvrir sa responsabilité au cas où on a une procédure, c'est penser à soi, mais c'est pas penser au client. Donc voilà, c'est des petites choses sur la gestion du temps, sur aussi dédier des plages horaires où on va conclure, de dire voilà là, il n'y a pas de téléphone, on ne me dérange pas, je fais des conclusions de telle heure à telle heure et je le note sur l'agenda. C'est d'être vraiment dans le respect du temps, de son agenda, et de dire quand la journée se termine, elle se termine.
Je rebondis sur ce que vous disiez sur le fait qu'appeler les clients, finalement, ça fait gagner du temps, et c'est vrai. Et je pense que quand on est jeune collaborateur, au début, on a un peu peur d'appeler le client parce que on a peur qu'il nous pose des questions auxquelles on saura pas forcément répondre tout de suite. Et personnellement, j'ai vraiment vu l'évolution au fil de mes années d'expérience, et finalement, ces moments d'échange avec le client, ça faisait vraiment partie de ce que je préférais dans mon métier. Et puis après, c'est vrai, enfin, ça fait gagner du temps, parce qu'à l'écrit, on est tous un peu psychorigides à se relire 15 fois, à la virgule près. Et je pense que pour la question de la responsabilité, il y a un équilibre à trouver, enfin, un juste milieu à trouver sur des points où finalement, on n'a pas besoin de faire d'écrit et d'autres où c'est vraiment important et il faut absolument faire des écrits. Puis après, ça dépend aussi des préférences du client, parce qu'il y a des clients qui préfèrent qu'on les contacte par mail et pas qu'on les appelle, donc...
Je rebondis sur le fait d'avoir peur de ne pas savoir répondre à une question. Et ça, je l'ai vu énormément avec les filles du cabinet. Et en fait, je leur expliquais qu'elles avaient le droit de pas savoir. Et quand un client nous pose une question auquel on ne sait pas répondre, lui dire « écoutez, je ne sais pas, il faut que je fasse une recherche », il n'y a aucun client qui le prend mal. Et quand on enlève ce poids-là, cette pression qu'on se met de devoir tout savoir, ça change tout dans la relation avec le client. Donc, osez dire « je ne sais pas ».
Oui, c'est vrai, mais en fait, à partir du moment où j'ai compris qu'on avait le droit de pas savoir, tout s'est passé beaucoup mieux, effectivement. Et vous êtes combien dans votre équipe?
Alors là, actuellement, on est 2 associés, 1 collaboratrice et 3 assistantes, et puis on va recruter là une autre collaboratrice.
D'accord. Donc, on peut innover dans des cabinets de petite taille, et pas que dans les gros cabinets.
Ah, mais surtout, c'est encore plus nous qui avons les petits cabinets intérêt à innover pour pouvoir exister, pouvoir durer dans le temps. Parce que c'est vrai que là, on l'a vu hein, avec les derniers événements, les avocats sont inquiets sur leur profession. Oui, on a le droit d'être inquiet, mais à un moment donné, il faut se dire, alors qu'est-ce que je mets en place? Parce que moi, je suis convaincue qu'on peut continuer d'exercer, de bien exercer, de bien vivre de cette profession, mais en innovant, en étant créatif.
Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Mais vous pensez que le contexte actuel va justement accélérer ce processus d'innovation dans les cabinets, parce que un peu contraint et forcé de trouver des solutions?
Ah mais complètement. Moi là, on travaille donc depuis la maison et je suis en échange avec des confrères. Et certains me disent « Ah oui, mais moi, j'ai pas les dossiers avec moi, donc je peux pas faire. » Ou j'ai un autre qui me dit « Oh, mais mince, j'avais le logiciel, puis j'avais pas rentré mes dossiers. » Donc je pense que ça va faire évoluer et aussi peut-être moins se déplacer. Finalement, on arrive à travailler à domicile. Alors, on avait déjà mis le télétravail en place avant cette crise, d'ailleurs, merci et heureusement. Mais pourquoi pas le développer un peu plus? Moi, je me rends compte aussi que les rendez-vous par téléphone, ça se fait bien. Le premier rendez-vous, moi, j'aime bien l'avoir en direct, mais la suite des rendez-vous, je vais peut-être plus proposer de rendez-vous par téléphone. Donc voilà, en tout cas, ça nous amène à continuer la démarche dans laquelle on est.
Mais c'est vrai que le télétravail, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de cabinets qui refusaient le télétravail ou qui disaient « mais non, c'est pas possible », etc. Aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, bah finalement, on se rend compte que si on veut que ça fonctionne, ça peut fonctionner.
Ah mais bien sûr. Puis moi, je disais à mon associé, mais on peut pas se plaindre, on a la chance de pouvoir continuer de travailler. Donc, on a vraiment un métier qui s'y prête bien. Donc, c'est la mauvaise excuse de dire que ça s'y prête pas. C'est comme toujours, c'est une question de volonté, d'outils à mettre en place. Et on se rend compte qu'en situation de crise, on trouve des solutions à beaucoup de choses. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais après, je pense que parfois, ce refus du télétravail peut aussi s'expliquer par un petit manque de confiance sur, finalement, est-ce que quand on est chez soi, on va travailler, etc. Et je pense qu'il y a peut-être cet élément-là aussi qui jouait.
Après, ça, c'est un problème et je pense que c'est une grave erreur de management. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus on met de la confiance, plus les gens ont envie de bien travailler. Plus on veut fliquer et surveiller, plus on démobilise les gens. Donc, ceux qui ont peur du télétravail à cause de ça, c'est qu'à mon avis, ils ont déjà un management qui est pas le bon. Faut donner de l'autonomie, faut donner de la confiance. Vraiment, il y a rien de mieux pour motiver les équipes.
Ouais, c'est très vrai. Et vous avez mis en place un système de prise de rendez-vous en ligne. Est-ce que c'est un outil qui est beaucoup utilisé par vos clients?
C'est perfectible et on est en train de travailler dessus pour l'améliorer. Mais en tout cas, oui, les gens le demandent, le rendez-vous en ligne. Là, justement, on travaille dessus avec Divorce Simple. C'est-à-dire qu'actuellement, ils envoyaient leur demande et nous recevions un mail. Donc, généralement, ça nécessitait qu'on rappelle derrière parce que les horaires qu'ils proposaient, ça calait pas forcément avec nous. Il n'y a pas d'accès à l'agenda, enfin à un agenda avec des horaires proposés. Donc c'est ça qu'on travaille en ce moment, c'est-à-dire qu'ils aient accès directement avec un agenda avec des horaires proposés.
Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la mise en place de tous ces outils, la création de votre nouvelle plateforme de divorce en ligne?
Alors, des difficultés, on en a rencontré, et puis alors de façon surprenante, elles sont venues de notre profession. En fait, on a eu l'ordre des avocats qui, lorsqu'on lançait des choses, ça leur plaisait pas trop, en fait. Et donc, on a eu des courriers pas très sympathiques, pour être transparent, où on revenait remettre en cause ce qu'on faisait au niveau de la publicité. Donc, à chaque fois, on s'en justifiait, on avait, nous, le droit de notre côté pour expliquer qu'on pouvait le faire, tout ça. Et en fait, ça a été vraiment dur pour nous, en se disant, mais on essaie d'innover, et notre propre profession, notre ordre est en train de nous tirer par le bas en disant « vous devriez pas », etc. Et le plus bel exemple que j'ai, et ça m'avait mis en colère, on avait été primé pour un prix de l'innovation sur la relation client, on avait été finaliste.
En 2017, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Et donc, les bâtonniers des différents candidats étaient là et tout. Nous, on n'a pas eu une lettre de remerciement, de félicitations, ni rien. Par contre, on avait eu des courriers en disant « attention, vous devriez pas faire ceci ou cela ». Et je me dis « mais c'est triste, en fait, que on n'ait pas le soutien des barreaux ». Alors maintenant, ça va mieux. Alors, la divorce en ligne, pareil, ça interroge tout de suite. Les premiers courriers qu'on reçoit, c'est un peu d'inquiétude et de suspicion et autres. Alors, on s'en explique, on justifie. Mais je trouve que c'est un petit peu dur parce que finalement, notre plus grande difficulté, c'est par rapport à notre ordre ou parfois, c'est plutôt que de dire mais allez-y, faites-le, c'est plutôt de nous tirer un peu vers le bas. Et je pense qu'on aurait gagné dans notre profession à s'ouvrir un petit peu, à se dire qu'il y a peut-être des choses intéressantes qui se font et on va interroger sans forcément être sur de la suspicion.
Et dans un contexte où on parle justement beaucoup de la transformation du métier d'avocat, quelle est votre vision de l'avenir de notre profession ?
Alors, j'ai le sentiment que je vais pouvoir encore plus exercer comme j'aime. C'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser le numérique pour faire des choses qui sont sans valeur ajoutée et que j'aurai plus de temps pour être dans un vrai accompagnement.
Et quelles nouvelles compétences pensez-vous que les professionnels du droit devraient acquérir ?
Je reviens sur ce que vous avez dit au début, vraiment cette notion d'être capable d'être à l'écoute. L'autre compétence, c'est d'être ouvert à d'autres professions. Je crois qu'il faut qu'on sorte un petit peu de notre métier. Moi, je sais que j'aime bien aller faire des formations qui sont pas données par des avocats. Aller s'intéresser à d'autres métiers qui peuvent nous apporter un nouvel éclairage. Donc, de l'écoute et de l'ouverture.
Et quels conseils vous donneriez aux étudiants et professionnels du droit qui nous écoutent pour embrasser le futur avec succès ?
Je suis convaincue qu'on ne fait bien que ce qu'on aime. En fait, c'est de faire avec qui on est. Donc, se poser la question, mes talents, ils sont où ? Qu'est-ce que je fais bien ? Et bien, finalement, je vais accentuer sur ce que je fais bien. Donc, le conseil, c'est apprenez à vous connaître et d'être honnête avec qui on est, ce qu'on aime faire, parce que voilà, on fait bien ce qu'on aime faire.
Ce que vous me dites, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec Marie Duhaut, qui a créé Entre Confrères. Et en fait, elle me disait que avec un partenaire, il voulait mettre en place un détecteur de talents pour repenser la gestion et l'organisation des talents au sein du cabinet d'avocats pour optimiser au maximum les talents de chacun. Donc finalement, c'est ce que vous mettez en place au sein de votre cabinet.
On l'a fait par un petit jeu qui était tout simple. Alors, je l'ai repris ça d'idée de podcast que j'écoute. C'est kiff ou pas kiff. C'est-à-dire qu'en fin de journée, chacune se pose la question qu'est-ce qu'elle a aimé faire et qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé faire dans sa journée. Ce qu'on a aimé faire, on doit essayer de le faire encore plus. Ce qu'on n'a pas aimé faire, on se pose la question pourquoi on n'a pas aimé et est-ce qu'il existerait une solution pour ne plus avoir à le refaire. Et si on axe notre façon de travailler comme ça, on arrive à vraiment faire les choses qu'on aime et réorganiser le cabinet de cette façon-là.
Vous êtes aussi la preuve que finalement, l'innovation peut être humaine.
C'est notre mot d'ordre depuis le départ et je suis vraiment convaincue que l'innovation, elle doit être humaine avant tout. Elle doit être au service de l'humain en tout cas et pas l'inverse. Et tant qu'on sera dans cette direction-là, je me dis, on peut que apporter du bien-être à tout le monde. Donc, ça doit vraiment rester une direction en tout cas. Et que les choses sont pas incompatibles et que la tech n'est pas incompatible avec l'humain. Il faut aussi dépasser tout ça en fait.
Oui, ça peut être d'utiliser finalement des outils tech pour, comme vous disiez, gagner du temps. Et derrière, en fait, c'est une vocation plutôt humaniste, dans le sens où on va pouvoir consacrer plus de temps à la relation client.
Complètement.
Quels sont les premiers pas à faire, selon vous, si on veut moderniser sa pratique, innover, et notamment d'un point de vue relation client ?
Quel que soit son niveau de structure, on peut commencer par automatiser des petites choses pour ensuite se permettre d'avoir ensuite accès à un communicant, accès à un informaticien et ainsi de suite en fait. Et faut pas se dire « ah ben moi je peux pas parce que je suis trop petit ». Tout peut se faire à différents niveaux en fait. S'il aime effectivement la relation client, alors là il va pouvoir réfléchir à ce qu'on appelle l'expérience client. L'expérience client, c'est se poser la question « qu'est-ce que ressent mon client quand il rentre dans mon bureau jusqu'à ce qu'il en ressorte ?» Et il y a un petit truc tout facile à faire que tout le monde peut mettre en place maintenant, c'est moi ce que j'appelle le au revoir client. C'est-à-dire que quand un dossier est terminé, on appelle le client pour lui demander comment est-ce qu'il a ressenti toute cette procédure, comment est-ce qu'il s'est senti accompagné. Et on l'écoute. Et ça doit vous donner des informations sur les points que vous devez investir pendant votre dossier.
Sur quelle note vous aimeriez terminer l'interview ? Est-ce que vous y avez quelque chose d'autre que vous aimeriez partager avec nous ?
On a la chance de faire une profession qui est magnifique, qui nous permet tellement de choses, qui nous permet d'être entrepreneur. Alors, osez, allez-y, faites, lancez-vous. Je crois beaucoup à l'action, en fait. Ça rend heureux, l'action. Donc, lancez-vous, essayez, et puis si ça rate, c'est pas grave, on recommence autre chose, mais osez, allez-y, en fait.
Merci beaucoup, Karine. J'ai beaucoup aimé cette interview, malgré les petites difficultés techniques. J'ai beaucoup aimé nos échanges et j'aime beaucoup votre approche qui est très humaine et qui donne un peu un nouveau souffle. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites et je pense que c'est une belle source d'inspiration.
Bah, merci à vous aussi. Merci de vous y intéresser et je trouve ça chouette parce que ça va permettre à d'autres de faire savoir qu'on peut se lancer dans l'innovation et j'espère vraiment que ça donnera envie à des jeunes collaborateurs, à des avocats de tout âge d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à innover, de se lancer dans des choses qui les intéressent. Donc merci de le faire.
Merci, et j'espère aussi.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note, de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup, et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des questions, ou si vous voulez donner votre avis, ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire sur les pages du Vent sous la Robe sur les réseaux. Donc, il y a une page sur Instagram, une page sur Twitter, une page sur LinkedIn, une page sur Facebook. Et sinon, sur le site internet, sur la page dédiée à chaque épisode, vous avez la possibilité de laisser des commentaires. C'est vraiment fait pour ça. Ça peut être très intéressant de débattre sur ces sujets. Donc, n'hésitez pas. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt !